Place publique.
La planète protestante romande est en émoi depuis une semaine. En tout cas, les centaines de lecteurs du journal Réformé qui ont réagi à cause d'un article sur l'accueil des couples homosexuels, transgenres et intersexes dans leur église. Place publique va faire réagir dans un instant deux représentants des églises réformées et évangéliques dans l'arc jurassien. On va aussi débattre après 18h35 de la votation du 4 mars consacrée au régime financier 2021 de la Confédération. C'est un objet qui passe assez inaperçu à côté de Nobilag et pourtant l'enjeu est de taille. Un nom dans les urnes pourrait signifier tout simplement la banqueroute de l'État fédéral. Enfin, on va entendre un psychologue du travail. Il va nous parler des conséquences de la numérisation sur nos emplois. La révolution 4.0 signifie certes des horaires plus flexibles, des lieux de travail variés, mais cette révolution comporte aussi des risques accrus d'épuisement, de burn-out.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Une semaine après sa parution, difficile de ne pas avoir vu cette photo qui montre un homme de couleur avec les bras en croix. Il est enlacé par son compagnon blanc de peau. Ce cliché artistique intitulé « Crucifix » est l'œuvre d'une artiste suédoise. Et cette photo sert de couverture à un dossier qui débat de l'accueil des homosexuels, transgenres ou intersexes dans les églises réformées. C'est un article qui a été publié par le mensuel Réformé, un journal affilié aux églises de Genève, Vosges, Neuchâtel, Berne francophone et Jura. Ce dossier a déclenché une très vive controverse avec des centaines de mails courroucés envoyés à la rédaction du mensuel par des fidèles choqués. Largement commenté aussi dans les médias, la polémique fait rage, surtout du côté vaudois, il faut le dire. D'ailleurs, l'église évangélique et réformée du canton de Vaud a pris position en critiquant le choix de l'illustration et le manque de diversité dans les opinions exprimées. En revanche, dans l'arc jurassien, on ne sent pas vraiment d'agitation. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de débat sur la question? Alors on vous propose d'en discuter avec deux personnalités engagées dans les églises réformées et évangéliques de l'arc jurassien. À commencer par vous, Christian Mia, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du conseil synodal, c'est l'exécutif de l'église réformée évangélique du canton de Neuchâtel. Et avec vous, avec nous, Marc-Étienne Peter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le pasteur de la communauté évangélique Free de Tavannes, c'est dans le Jura bernois. Alors on précise que vous parlez en votre nom, mais pas au nom de tous les évangéliques du Jura bernois. Voilà. Christian Mia, comment l'RN à Neuchâtel a réagi à la publication de ce dossier avec cette photo qui l'accompagne ?
Plusieurs réactions des lecteurs, à la fois positives et négatives. Concernant les autorités elles-mêmes, le conseil synodal, il n'y aura pas de position officielle puisqu'il y a une indépendance du journal par rapport aux églises, même si celles-ci subventionnent ce journal. On a toujours eu cette liberté rédactionnelle.
Donc vous ne seriez pas du genre à faire comme votre homologue vaudoise ?
Notre situation est un peu différente avec l'église vaudoise, qui a eu un débat très houleux ou difficile concernant la liturgie pour les couples de même sexe. Tandis que nous, notre histoire est un peu différente du fait qu'en 2007, le synode n'est pas entré en matière.
Donc il y a eu déjà un débat qui a eu lieu il y a 10 ans et finalement pas de cicatrice à rouvrir.
En tout cas, pour l'instant, le conseil synodal ne veut pas entrer, reprendre ce dossier, puisque l'on a un autre qui est important pour ces prochaines années, puisque c'est RN 2023 où on doit se positionner en tant qu'Église dans la société avec une réflexion sur ses structures, sa constitution et son règlement général.
Alors on va en reparler. Marc-Étienne Peter, du côté du Jura bernois, est-ce que l'article et la photo sont passés inaperçus, notamment parmi les évangéliques ?
Alors, je pense de loin pas. Maintenant, c'est vrai que pour moi, quand je l'ai reçu, c'était un passé inaperçu, en fait. Mais quand j'ai vu mon entourage, les gens réagir, je me suis dit, oh, je crois que j'ai dû louper quelque chose. Alors, je me suis un peu plus intéressé aux articles. Et évidemment, la photo était pour moi, je dirais, comme un souvenir de ces photolangages où il s'agit finalement de décoder plus ce que le message a envie d'être dit et surtout ce que je ressens finalement par rapport à ce couple qui visiblement est amoureux. Alors je je suis rentré dans une réflexion, bien conscient que dans le milieu évangélique, finalement, ce genre d'image courrousse, et je sais qu'il y a eu des désabonnements de membres des communautés évangéliques suite à l'apparition de cette photo.
Même si ce n'est pas un journal à proprement parler évangélique ou soutenu par l'Église évangélique.
C'est-à-dire que c'est un journal qui nous est cher, puisque dans le canton de Berne, eh bien, on doit, par rapport aux impôts, dire si on est réformé ou pas, et beaucoup d'évangéliques sont finalement affiliés à l'Église réformée et donc reçoivent aussi ce journal. Et ce journal permet de voir l'évolution, je pense, qui se passe dans le dialogue auprès de l'Église réformée, et puis nous permet nous aussi de nous situer toujours par rapport à ces prises de position ou par rapport à ces activités.
Marc-Étienne Peter, on le sent bien, à titre personnel, en tant que pasteur évangélique, vous n'avez pas été choqué à première vue par cette photo, mais au vu de l'ampleur de la controverse et des réactions qui vous sont parvenues, est-ce que vous pensez après coup que le choix de la rédaction de Réformée était le bon ? Est-ce que la photo n'était pas trop polémique, voire blasphématoire, avec ses bras en croix ?
C'est une photo artistique. Moi, ce que j'ai retenu, c'est oser briser le silence. Alors, ça fait un sacré tapage, médiatique en tout cas. Donc, le silence n'est plus là. Par contre, c'est vrai que pour les milieux traditionnels, fondamentalistes, évangéliques, il y avait beaucoup de tabous qui, dans cette photo, sont montrés. Il y a bien sûr la nudité. Il y a deux hommes enlacés, il y a le piercing, il y a le tatouage, il y a la couleur de la peau. Enfin, c'est beaucoup d'éléments qui viennent comme ça heurter la sensibilité de beaucoup de nos croyants.
Christian Mia, est-ce que ces éléments qui peuvent heurter étaient-ils trop heurtants ? Est-ce que la photo n'allait pas trop loin ? Est-ce qu'elle ne barrait pas la route à justement ces réflexions dont parle Marc-Étienne Peter ?
C'est un peu la manière dont le dossier a été constitué qui peut peut-être poser problème. Pas la photo en tant que telle. Elle est choquante, ça c'est vrai. Elle peut heurter, mais elle aurait peut-être pu être explicitée de manière plus détaillée à l'intérieur du dossier.
Qu'est-ce qui vous choque ? Vous dites c'est vrai, elle choque, mais c'est pas forcément évident qu'elle choque.
Elle choque certainement une partie des membres de notre Église. Parce qu'elle touche à la sexualité, et en particulier avec l'image de la croix, la sexualité de Jésus. Et de ce côté-là, cet élément-là peut aussi choquer. Et pas simplement la dimension homosexuelle, mais aussi la dimension de mettre un Jésus en croix avec la dimension sexuelle. Et c'est cet élément-là qui peut choquer. Mais c'est une œuvre d'art, et en ce sens-là, c'est intéressant de pouvoir la présenter. Mais accompagnée peut-être de manière différente et avec un équilibre dans l'entier du dossier.
La photo en elle-même, il y a une légende qui explique que c'est de l'art. Cette photo qui fait beaucoup jaser, qui suscite beaucoup d'émoi, a finalement atteint son but. Ça a permis quand même à beaucoup à s'intéresser, à réformer, à se questionner aussi. Est-ce que finalement, ce n'est pas le prix à payer pour que le débat ait vraiment lieu ?
Le débat doit avoir lieu. Ces questions doivent être posées parce qu'elles touchent finalement à l'être de l'Église aussi par rapport à toutes les personnes que les Églises doivent accueillir. Et toute personne, quelle que soit sa manière de vivre, sa sexualité, gay ou lesbienne ou transgenre, cet accueil, il est inconditionnel. Par contre, la question de est-ce qu'on va choquer ou non, pour une Église, se pose avec une telle image.
Place publique. Gabriel Devecq.
Et on retrouve nos invités pour discuter de cette controverse, très forte controverse liée à l'apparition d'un dossier sur l'accueil des homosexuels, transgenres, bisexuels dans les églises réformées évangéliques. Marc-Étienne Peter, vous êtes avec nous, pasteur de la communauté évangélique Free de Tavannes. Un mot quand même sur le débat théologique aussi qui est provoqué par ce dossier, par cette photo, notamment sur les réseaux sociaux. On a l'impression que personne n'a encore vraiment trouvé la solution. Est-ce que les écritures légitimes, valides ou au contraire, condamne des pratiques sexuelles telles que celles dont on parle.
La difficulté, c'est qu'il y a peu de textes qui engagent en fait ce genre de réflexion. Il y en a trois, disons deux. Un, c'est des lois dans le Lévitique, où il y a un pêle-mêle, surtout des comportements quant à la relations dans une famille, les relations sexuelles, les interdits, dont l'inceste par exemple, mais aussi le fait d'épouser une sœur quand on a sa femme. Enfin, voilà, et puis il y a l'homosexualité. Et puis il y a Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 1, à la fin, qui fustige le comportement du monde, mais en y disant un truc étonnant, c'est le « on ». Il ne parle pas en son nom, il parle du « on ». Et ce qui est intéressant à la fin de son discours, où clairement il présente finalement cet usage contre nature qui devient l'acte d'une stérilité, de non-porteur de vie, il termine son discours en un « tu » qui résonne très fort. Il dit « Et toi, qui que tu sois, qui es-tu pour juger ?» Et il en appelle, en fait, au changement de comportement. Et on comprend bien que le changement de comportement, il est chez nous, avant toute chose. Et peut-être que c'est là où l'accueil doit se faire. C'est toujours revenir à soi pour savoir si l'évangile nous pénètre ou pas.
De votre côté, Marc-Étienne Peter, comment vous abordez cette question avec vos fidèles, hein? Vous êtes confronté à, si on peut dire le mot confronté, à des personnes qui vous approchent et qui ont fait leur coming out, qui cherchent à être accueillies en tant que telles. Qu'est-ce que vous leur répondez? Comment vous les accompagnez?
Alors pour moi, c'est très important de cheminer avec les gens, avec ces jeunes surtout, puisque c'est 4 jeunes, les faire en ne les choquant pas, mais en essayant de comprendre. Alors la réalité, c'est qu'actuellement, ils sont dans leur vie, engagés dans leur couple ou dans leur recherche, tous ne sont pas en couple, et puis ils font peu appel en fait à mes services, sachant que je représente finalement une forme de condamnation sociale.
Et vous ne les bénirriez pas s'ils vous en faisaient la demande? Parce qu'au final, c'est un peu de ça dont on parle, c'est est-ce qu'on est prêt à bénir, voire à marier des couples homosexuels? Est-ce que vous-même, c'est un pas que vous seriez prêt à titre personnel de franchir?
Alors, je vais faire une réponse de Normand, évidemment. Je les bénis, dans le sens que j'ai une pensée pour eux, et pour moi, c'est un souci quand je vois aussi la souffrance des parents. Mais j'ai eu 2 demandes, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai refusé, non pas tant par rapport à mes propres convictions, que finalement, l'incompréhension, je pense, de l'Église ou de la communauté, qui doit aussi naître à cette réalité, qui est sociale, qui est nouvelle, et puis qui provoque finalement une réflexion sur, en effet, la qualité de l'accueil que l'on peut offrir.
Christian Mia, pour conclure, donc, vous nous le disiez brièvement en début d'entretien, l'Église réformée neuchâteloise a clos le débat en 2007, c'était il y a une dizaine d'années. Là, on le voit, le débat, il n'est pas clos. Il trouve n'importe quel carburant pour s'enflammer à nouveau. Est-ce qu'il ne faudrait pas le rouvrir? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, malgré tout, très important?
Alors, le débat ou la question n'est jamais close en tant que tel. Le dossier de réformé est intéressant parce qu'il parle d'abord de l'accueil. Comment accueillir la personne, quelle qu'elle soit, dans sa manière d'être et de vivre, également dans sa sexualité. Et ça, je trouve très intéressant. Comment, en tant qu'Église, accueillir les personnes? Et là, de notre côté, au niveau de l'Église réformée, c'est un accueil inconditionnel. Ça veut dire que la personne, elle a sa place dans notre Église telle qu'elle est, avec sa sexualité ou sa manière de vivre. Et là-dessus, c'est différent entre un rite qui serait une bénédiction d'un couple ou le mariage d'un couple, où là, c'est quelque chose qui est un peu différent parce que ça doit être pris au niveau de notre synode, puis cette question a été posée à notre synode.
Messieurs, merci d'être venus vous exprimer au nom de votre communauté ou de votre Église au sujet de ce dossier paru dans Réformé. On voit bien que ce débat, que ça donne lieu à un débat passionnant, intéressant, et que des évolutions sont encore à venir et qu'il ne faut pas, à vous entendre, aller trop vite. Tout dépend aussi de l'acceptation, hein, de la communauté, de l'ensemble des communautés impliquées. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Place publique.
Et un autre débat maintenant, et si le peuple suisse décidait dans moins d'un mois, donc le 4 mars, de supprimer l'impôt fédéral direct et la TVA. Un choix radical au programme de cette votation. Pourquoi radical ? Eh bien parce qu'en coupant les vivres, les citoyens obligeraient la Confédération à renoncer d'ici 3 ans à pas moins de 60% de ses dépenses. C'est plus de 40 milliards de francs. Fini la formation dans ces conditions, les transports publics, l'agriculture et j'en passe. Même Uli Maurer met en garde, un non signifierait tout simplement la banqueroute de l'État fédéral. Alors cet objet de votation passe pour le moins inaperçu, éclipsé par l'initiative Nobilag. Malgré tout, quelques membres de partis de droite ou libertariens en Suisse ont formé un comité pour dire non à cet impôt, à ces impôts. Un comité essentiellement donc actif en Suisse alémanique, mais malgré tout avec un représentant en Suisse romande, ce qui nous permet d'ouvrir le débat dans Place Publique. Deux invités donc nous ont rejoints par téléphone. Samuel Bendaan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller national socialiste vaudois et économiste. Et Fabio Battiato avec nous également. Bonsoir. Si vous m'entendez, Fabio Battiato.
Oui, pardon, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes étudiant en droit master à Lucerne. Vous êtes libertarien, donc en deux mots, et vous me corrigerez si je dis faux, une idée qui vise à supprimer l'État au nom d'un libéralisme radical. Fabio Battiato, quel est votre intérêt à vouloir, quelque part, mettre en faillite la Confédération, en tout cas dans l'idée, en prônant le non ?
Alors, dans l'idée, il ne faudrait pas mettre en faillite la Confédération. Il faudrait évidemment, et c'est ce que toute personne raisonnable souhaiterait, il faudrait amener une transition qui soit douce, qui soit progressive. Il est de ce fait évident que voter non le 4 mars, si vous le faites, c'est pas en souhaitant que la votation passe et puis que le régime 2021 soit effectivement refusé. C'est plutôt pour envoyer un message. Moi, pardon, à titre personnel, je me fais pas beaucoup de soucis. Je sais que le régime financier 2021 a de très faibles chances d'être refusé. Il s'agit plutôt d'éviter un score soviétique. De montrer que la population continue de s'intéresser au budget de l'État fédéral. Dans une démocratie, on a plusieurs moyens de, et on a au fond le devoir de contrôler l'activité de l'État, l'activité des élus. L'un de ces moyens, c'est de contrôler leur budget. Alors, si la votation, si le régime financier passait à plus de 90%, ce serait un blanc-seing pour l'État fédéral et les politiciens de continuer de dépenser, de grossir. Et puis, c'est au fond cette première chose-là que nous souhaitons.
On vous a bien compris, on va faire réagir Samuel Bendaan déjà sur ce premier argument. Apparemment, c'est une bonne chose que le peuple puisse, quelque part, décider s'il faut tirer la prise de la Confédération. Mais ça reste quand même une lourde responsabilité, Samuel Bendaan.
Je pense que le peuple peut faire ce qu'il veut, donc qu'il puisse se prononcer comme il n'est jamais mieux opposé. Par contre, j'aimerais dire une chose, il faut que les gens se prononcent sur les textes qu'ils ont. Si on commence à donner oui, à voter oui, parce qu'on veut donner je ne sais quel signal pour autre chose, ça devient vraiment n'importe quoi. Et regardez qu'est-ce qui se passe quand les gens votent pour donner des signaux, ça donne des cataclysmes économiques et des grosses erreurs. Donc je pense qu'effectivement, si un groupe veut faire quelque chose dans la douceur, bah, qu'il propose une initiative qui va dans ce sens-là et qui fait les choses dans la douceur, et là, le peuple se prononce dans cette direction-là. Mais ici, on est effectivement en train de se prononcer sur quelque chose de fondamental, ce qui est la marche actuelle de toute une série d'activités que les Suisses adorent, que les Suisses aiment massivement, et donc c'est important que le peuple dise, ben voilà, en tout cas, on n'est pas d'accord de couper ça du jour au lendemain, sans compensation, sans répondre à la moindre question sur qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Là, cette votation, c'est est-ce que vous voulez ou non garantir les finances d'à peu près quasiment tout ce que fait la Confédération. Et franchement, si le peuple commençait à dire non avec une partie substantielle, ça voudrait dire vraiment qu'on a tout d'un coup un peuple nihiliste. Et je n'y crois pas.
Fabio Battiato, c'était quand même difficile à comprendre. Hein. Pourquoi prôner le non et dire en même temps qu'un refus de ce régime financier conduirait à une crise majeure ?
Eh bien, le fait est que si je ne m'étais pas manifesté comme un opposant au régime financier 2021, je ne serais pas avec vous en train de discuter d'impôts, d'État, de fiscalité. Et puis, je crois que c'est très important dans une démocratie qu'on remette systématiquement ces sujets sur la table. Donc, au fond, il fallait que quelqu'un dise non. Maintenant, à titre personnel, je crois effectivement que d'ici 2021, l'État n'arrivera pas à se réorganiser si on lui enlève 60% de ses ressources. Mais c'est quand même intéressant de se poser la question, parce que la TVA, tout comme l'IFD, si on vote
sur ces impôts,
et l'impôt fédéral direct, oui. Si on vote sur ces deux impôts, c'est parce qu'à la base, ils étaient supposés être provisoires et que de temps en temps, on les renouvelle. Donc c'est ce qui reste, c'est un résidu de l'histoire. Pardon. La TVA existe. Alors, à l'époque, elle s'appelait impôt sur le chiffre d'affaires, qui est son ancêtre depuis 1940. L'ancêtre de l'impôt fédéral direct, c'est l'impôt pour la défense nationale de 1941. Ces deux impôts qui ont été présentés comme provisoires, et au fond, on peut considérer que l'État, d'une certaine manière, a apporté, s'est octroyé des nouveaux moyens de s'agrandir, de grossir, en promettant qu'il serait provisoire, et il n'a pas tenu cette promesse. Et puis, ce n'est pas les seules institutions fédérales qui étaient supposées être provisoires et qui ont duré. On peut penser à la vignette autoroutière, par exemple, qui existe depuis 1985 et était prévue à l'origine pour 10 ans. On peut penser, alors là on sort des impôts, mais on peut penser aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de 1966, donc qui ont fêté leurs 50 ans, qui devaient aussi être provisoires pour compenser sur un terme relativement court les défaillances des systèmes AVS et AI. Mmh. Donc on voit qu'à chaque fois, l'État et les politiciens vont toujours arriver avec des très bonnes raisons. Ils vont nous dire, mais c'est pour vous, c'est pour votre bien, c'est pour plus d'infrastructures. Et plein de promesses, mais ils veulent au fond une part toujours plus grande de ce qui se trouve dans notre porte-monnaie.
Samuel Mendes.
Et ça, à un moment donné, il faut qu'on ait un contrôle là-dessus.
Attendez. Non, mais il y a un moment donné, il faut quand même remettre les choses au milieu du village. Moi, je viens de regarder une série ce week-end qui s'appelle Altered Carbon. C'est l'histoire de l'humanité dans le futur quand l'État a disparu. Qui a pris le contrôle? Les grandes entreprises, les plus riches. Et puis, c'est eux qui contrôlent absolument tout. Les pauvres peuvent mourir dans leur coin. Et ça, c'est la vision de société de l'extrême libertarianisme que vous défendez en disant, nous, on propose de supprimer d'un coup les recettes de la Confédération et qu'il faut absolument dire ça. Non, la démocratie, c'est pas qu'on se prononce sur absolument tout et n'importe quoi. C'est que lorsqu'il y a un nombre substantiel de personnes, lorsqu'il y a assez de personnes qui ont envie de discuter de quelque chose, et là, on discute de cette chose-là, c'est pour ça qu'il y a l'initiative populaire, vous êtes libre de lancer et de trouver 100 000 personnes qui veulent effectivement qu'on parle de ça. Mais avant cela, il faudra peut-être proposer des projets un petit peu plus raisonnables pour avoir cette situation-là. Ici, c'est vrai, c'est pour des raisons historiques, le peuple se prononce, mais c'est pas les politiques, hein, c'est le peuple qui a rendu ça permanent chaque fois, puisqu'à chaque fois, on doit voter. Effectivement, je crois que le peuple aujourd'hui est raisonnable en se disant, il n'a peut-être pas envie que ce soit comme maintenant, mais il n'a pas non plus envie de faire tout péter. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'on ait la discussion sur finalement la répartition des richesses, le rôle de l'État. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense que l'État doit tout faire, tout contrôler, évidemment pas. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas aller dans l'extrême inverse, parce que s'il n'y a pas un certain nombre de choses démocratiques qui viennent mettre des règles du jeu dans le système économique et financier de notre pays, alors qui va contrôler le monde? Et bien finalement, les plus forts. Et le problème, c'est que dans le passé, les plus forts, c'était ceux qui avaient le plus de muscles. Demain, les plus forts, c'est ceux qui ont plus d'argent. Et là, les différences sont encore beaucoup plus élevées. Donc un minimum de solidarité, c'est quand même nécessaire pour qu'on fonctionne ensemble. Et je crois que le peuple suisse en est absolument convaincu.
Eh bien, merci messieurs, en tout cas, d'avoir engagé la discussion sur cet objet de votation qui, certes, passe inaperçu, mais on le comprend, qui, au niveau du fond et au niveau même de la pratique, comporte beaucoup d'enjeux et pourrait avoir des conséquences massives. Merci messieurs d'avoir été dans Place Publique. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée à vous aussi.
Place Publique. Nous vivons une révolution industrielle, la quatrième du nom. Alors après la machine à vapeur, la mécanisation et l'électricité, place à la numérisation. Un tsunami technologique qui est en passe de bouleverser nos moyens de production, mais aussi de chambouler l'organisation du travail. Alors nous avons profité de la tenue dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi d'un colloque qui est consacré à cette question et qui se tient à l'université de Neuchâtel. On en a profité pour rencontrer Adrian Bangerter, professeur de psychologie du travail dans cette même université. Il nous parle des conséquences de la numérisation sur nos emplois, ses risques et ses opportunités.
Avec la révolution digitale, l'impact sur le travail concerne surtout l'émergence de ce qu'on pourrait appeler des formes alternatives de travail, c'est-à-dire une sorte de flexibilisation de différents aspects du travail. Par exemple, flexibilisation de la relation de travail, où les gens travaillent plus pour eux-mêmes, de manière indépendante, sur des contrats à court terme. Flexibilisation aussi, peut-être, des lieux de travail, où on a la possibilité de faire plus de télétravail. Flexibilisation aussi du temps de travail, où on a la possibilité, grâce aux moyens technologiques, de travailler en dehors des heures traditionnelles de bureau. Donc ça, c'est des choses qui créent des opportunités pour les entreprises, pour les employés, mais aussi des risques potentiels pour la santé.
Tout le monde a en mémoire la situation précaire des employés d'Uber, les chauffeurs de taxi qui ne bénéficient pas d'autant de protection sociale que ce qu'ils devraient. Mais il y en a d'autres, des exemples, et même récents, qui peuvent parfois être dramatiques.
Oui, récemment en Angleterre, on a entendu parler du cas d'un chauffeur-livreur travaillant pour l'entreprise DPD, qui, étant diabétique, a hésité à se rendre au rendez-vous qu'il avait chez son médecin parce qu'il avait peur d'être amendé par son employeur s'il manquait des livraisons.
Qu'est-ce qu'on doit retirer de cet exemple ?
L'exemple montre les dérives d'une situation où la flexibilisation met sous pression l'employé de manière intolérable. Et il faut plutôt créer des situations où l'employé peut lui aussi choisir la flexibilité qui lui convient et ainsi profiter aussi de cette flexibilité.
Ce genre de cas de figure peut arriver en Suisse à ce jour ? Est-ce que des études le montrent ?
Alors, il semble que le marché suisse soit encore relativement peu touché par cette flexibilisation, en tout cas de la relation d'emploi. Alors, on compte beaucoup de travail à temps partiel en Suisse. C'est un phénomène qui est plutôt féminisé, avec plus de femmes qui sont dans une situation de travail à temps partiel que les hommes. Mais on compte en large partie sur le marché du travail suisse une proportion élevée de salariés, entre guillemets, typiques. Il y a relativement peu de travail sur contrat, relativement peu de travail sur appel, relativement peu de travail temporaire. Et une proportion d'indépendants qui est largement en dessous de la moyenne de certains autres pays, par exemple les États-Unis, où environ 35% des travailleurs sont indépendants. En Suisse, c'est moins de 10%, si je ne me trompe.
Néanmoins, on assiste à des évolutions qui peuvent être problématiques.
Oui, alors on parle beaucoup, par exemple, de l'avènement des smartphones. On sait qu'on, si je prends des chiffres des États-Unis, de nouveau, en 2012, c'est le moment charnière où plus de la moitié de la population possédait un smartphone, ce qui change fondamentalement les dynamiques de communication. Ça change aussi les habitudes communicatives qu'on peut avoir vis-à-vis de la communication au travail. Tout le monde est au courant de la difficulté qu'on peut avoir à ne pas consulter les messages liés à son travail en dehors des heures de travail. Et il y a maintenant passablement d'études qui commencent à sortir, qui montrent que la consultation répétée d'un smartphone, par exemple, en dehors des heures de travail, peut mener à des difficultés de détachement psychologique, c'est-à-dire qu'on a de la peine à ne pas penser au travail. On a peut-être parfois tendance à ruminer sur les événements liés au travail, les expériences qu'on a faites la journée. Ça, c'est quelque chose qui, à son tour, va augmenter le sentiment d'épuisement qu'on a en fin de journée. Et on sait que l'épuisement chronique, c'est quelque chose qui peut, à moyen terme, constituer un risque, par exemple, de burn-out. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est l'augmentation qu'on constate depuis quelques années dans le travail le soir et le travail de nuit. Donc, le travail de nuit, c'est quelque chose qui constitue clairement un risque pour plein de problèmes de santé. Et en partie dû à l'essor du commerce électronique, on est obligé d'adapter les horaires de fonctionnement, ce qui implique une plus grande demande pour du travail de nuit.
Il n'y a pas que des côtés négatifs, hein, à la digitalisation du travail. Il y a aussi un côté positif avec des personnes qui ont plus de souplesse pour adapter vie privée et vie professionnelle.
Voilà, il y a effectivement des gens qui arrivent mieux à gérer cette flexibilisation que d'autres. Alors on parle de gens qu'on appelle des intégrateurs, donc ce sont des gens qui arrivent à naviguer de manière assez facile entre le temps de travail, le temps de la vie de famille, par exemple les gens qui font du télétravail et qui arrivent à jongler un peu les deux exigences tout en étant au travail. Il y a des gens aussi qui ont du plaisir à réfléchir au travail en dehors des heures de travail, des gens qui ont des pensées constructives pour qui c'est stimulant d'avoir des pensées par rapport au travail, de réfléchir, de résoudre des problèmes en dehors des heures de travail traditionnelles. Et en général, on peut dire que la flexibilisation des heures de travail peut aussi amener des bénéfices si ça augmente l'autonomie du travailleur, c'est-à-dire si la personne a l'impression de pouvoir contrôler ça. C'est aussi quelque chose qui peut fonctionner comme un facteur protecteur contre le stress.
Le travail à temps partiel et à domicile, ça a inspiré aussi de nouveaux types d'emplois. Par exemple, vous donnez l'exemple des crowd workers. De quoi s'agit-il exactement ?
Le phénomène des crowd workers, c'est des gens qui travaillent via une plateforme. Un exemple très connu, c'est la plateforme Amazon Mechanical Turk, où vous pouvez vous inscrire pour faire ce qu'on appelle des micro-boulots. Donc, c'est des tâches qui sont décomposées en des morceaux que vous pouvez exécuter en quelques minutes, en quelques heures. Alors, ces gens-là peuvent travailler. Alors, le salaire n'est pas très élevé, mais ça permet à ces gens-là qui peuvent, pour différentes raisons, vouloir travailler à la maison, des gens qui doivent travailler à la maison, par exemple, des gens qui sont limités au niveau de leur mobilité par un handicap, des gens qui doivent s'occuper d'un proche ou d'enfants, ces gens-là peuvent travailler de manière très flexible, à leur convenance, et gagner un peu d'argent. Maintenant, le problème, c'est les gens qui sont soumis par nécessité économique à ces plateformes, qui n'offrent souvent pas suffisamment de volume de travail pour subvenir, par exemple, aux besoins complets d'un ménage.
En conclusion, est-ce que vous avez l'impression, Adrian Bongaerter, que le travail 4.0 est une question de santé publique en Suisse ?
Lorsqu'on veut parler d'un problème de santé publique, il faut essayer de voir quelle est l'envergure d'un tel problème. Qu'est-ce qui constitue un exemple de problèmes de santé publique. Un exemple, c'est le stress, c'est le burn-out. Ça, ce sont des réels problèmes de santé publique qui coûtent des milliards à l'économie chaque année et qui engendrent aussi beaucoup de souffrances physiques et psychiques. On n'en est pas encore là concernant les effets qu'on peut anticiper de la révolution, la digitalisation 4.0. Par contre, il faut surveiller ces développements pour pouvoir prendre des mesures appropriées lorsque la situation évolue.
On peut en conclure que si ce n'est pas encore un problème de santé publique en Suisse, ce travail 4.0, ce n'est pas pour autant que les travailleurs, les entreprises ou les pouvoirs publics doivent rester les bras croisés.
Alors d'une part, concernant le travailleur, les travailleurs qui seront en position de force dans l'économie demain, ce sont des travailleurs qui ont des compétences qui sont recherchées par les entreprises et qui savent faire du réseautage. Une chose qu'on a vue récemment, c'est qu'environ 70% des postes ne sont plus mis en concours, mais sont pourvus via les réseaux sociaux. Donc il faut savoir faire ce qu'on appelle du marketing de soi. On en parle déjà depuis un moment. Donc il faut un travailleur qui soit compétent de ce côté-là. Il y a aussi la responsabilité à prendre du côté des entreprises qui doivent, de concert avec l'évolution technologique, développer des politiques de gestion de l'hygiène psychologique du travail qui mettent aussi un certain nombre de frontières pour limiter les dérives, par exemple cet exemple de la consultation excessive des smartphones. Et puis il y a aussi la jurisprudence a un rôle à jouer pour établir des conditions cadres qui peuvent aussi protéger les travailleurs, en l'occurrence les travailleurs les plus vulnérables.
Place publique.